monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 13 novembre 2024. Législative au Tchad, la candidature du secrétaire général du parti au pouvoir rejetée.
Il faut savoir contester. Seulement là, on peut dire qu'on a eu de très bonnes élections au Tchad. Pour moi, je pense que ça répond à un agenda interne au plus parti au pouvoir.
Gondé Ladiba, enseignant à l'université de N'Djamena, va nous éclairer sur cette décision dans la partie magazine. Les Sénégalais élisent dimanche leur nouveau Parlement. Le Somaliland a voté aujourd'hui pour élire son président au moment où sa quête de reconnaissance internationale secoue la corne de l'Afrique. Ici aux États-Unis, Donald Trump reçu par Joe Biden alors que le président élu dévoile progressivement le casting de son administration. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Au Tchad, la commission électorale a rejeté la liste présentée pour les prochaines législatives par le secrétaire général du parti présidentiel accusé de falsification et de ne pas avoir respecté les conditions d'éligibilité. Nani Talani.
L'Agence nationale de gestion des élections accuse Mahamat Zen Bada, tête de liste du MPS du président Mahamat Idriss Déby Itno dans la région du Guéra et ex-directeur de campagne du chef de l'État, d'avoir présenté un faux casier judiciaire. L'agence lui reproche également d'avoir omis une condamnation en 2012 par la cour criminelle à 5 ans de prison et à une amende de 10 millions de francs CFA pour faux et usage de faux en écriture publique et détournement de fonds. Dans une déclaration hier mardi, Ahmed Bartiré, président de l'agence, lui reproche aussi de n'avoir pas fourni la preuve de sa mise en disponibilité de la police nationale. Or, selon le code électoral tchadien, les membres de la force publique en activité sont inéligibles. Pour toutes ces raisons, selon le président de la commission électorale, la candidature de Mahamat Zen Bada ne répond pas aux conditions d'éligibilité. Il précise cependant que le parti peut modifier sa liste pour la rendre conforme avant les élections législatives prévues le 29 décembre prochain.
Les Sénégalais élisent dimanche leur nouveau Parlement, un scrutin dont les nouveaux dirigeants espèrent une majorité nette pour tenir leur promesse de rupture. Rosine Mounizero.
Plus de 40 listes se présentent. Le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ancien président Macky Sall sont tête de liste. Deux autres coalitions, dont celle du maire de Dakar, Barthélémy Diass, et de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, sont dans la compétition. Les bureaux de vote vont ouvrir à 8h locales et GMT et fermer à 18h pour les quelques 7 millions d'électeurs. Le Premier ministre Ousmane Sonko et son parti PASTEF espèrent obtenir la majorité dans la future Assemblée. Il a exhorté hier ses partisans au calme après les avoir appelés à se venger des violences commises, selon lui, sur ses militants par des opposants. Le scrutin à un seul tour doit renouveler pour 5 ans les 165 sièges de l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye, largement élu en mars, a dissous l'Assemblée en septembre et convoqué ses législatives anticipées.
Au Mali, un opposant a été arrêté aujourd'hui à Bamako sous la pression des autorités du Burkina Faso qui l'accusent d'avoir tenu des propos jugés gravissimes contre les militaires au pouvoir dans ce pays voisin au cours d'une émission télévisée. Selon l'autorité de régulation des médias du Burkina, Issa Kaoudjim a dit que l'affaire de la énième tentative de déstabilisation du Burkina Faso n'est qu'un montage. Issa Kaoudjim a été l'un des vice-présidents du Conseil national de transition, l'organisation législative des militaires au pouvoir au Mali avant de se prononcer en faveur d'une fin rapide de la période dite de transition censée rétablir un régime dirigé par des civils. Les habitants du Somaliland, république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie, sont sortis ce mercredi pour élire leur président, une élection qui intervient au moment où leur quête de reconnaissance internationale secoue la corne de l'Afrique. Les précisions de John Lindon.
Les 1,22 million d'électeurs doivent choisir entre le président sortant Moussé Bihi, 76 ans, au pouvoir depuis 2017, Abdirahman Mohamed Abdullahi Di Iro, leader de Wadani, principal parti d'opposition, et Faisal Ali Warabe du Parti de la Justice Sociale. Son principal rival, Iro, est un ancien diplomate et ancien président de la Chambre des représentants, âgé de de 68 ans, il s'affiche en figure unificatrice face à la poigne de Moussé Bihi, un ancien militaire. Le Somaliland, depuis son autonomie en 1991, a sa propre monnaie, son armée et sa police, mais n'est reconnu par aucun pays. Sa quête de reconnaissance est depuis 10 mois au cœur d'une profonde crise entre la Somalie et l'Éthiopie, avec qui le Somaliland a signé un protocole d'accord qui prévoit l'allocation de 20 kilomètres de côte à l'Éthiopie, plus grand État enclavé au monde, en échange d'une reconnaissance formelle. Dénonçant une violation de sa souveraineté, la Somalie s'est depuis rapprochée de l'Égypte, grand rival de l'Éthiopie, déclenchant une escalade verbale et militaire qui inquiète la communauté internationale.
Le nouveau premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a prêté serment aujourd'hui après la victoire éclatante de sa coalition aux législatives dans ce pays de l'océan Indien dimanche, marquant son retour au pouvoir après 10 ans dans l'opposition. Monsieur Ramgoolam, 77 ans, chef du parti travailliste, est un ancien médecin et avocat qui a été premier ministre à 2 reprises. Il est également le fils de Siou Sagou Ramgoolam qui a conduit l'île Maurice à l'indépendance en 1968. La vaccination contre le virus du Mpox a commencé à Kinshasa, la capitale de la RDC, pays épicentre de l'épidémie en cours, mais les doses manquent pour immuniser les populations à risque, ont indiqué aujourd'hui les autorités sanitaires. Seuls 50 000 vaccins sont disponibles dans la capitale de 17 millions d'habitants, alors qu'il faudrait 110 000 doses. Selon le ministère de la Santé, mardi, Kinshasa compte actuellement 123 cas de contamination. Un soldat rwandais a ouvert le feu aujourd'hui dans un bar et tué 5 civils dans une ville du sud-ouest du pays, a indiqué l'armée. Le motif de la fusillade tôt dans la matinée dans le district de Nyamasheke n'est pas connu, mais les forces de défense rwandaises ont identifié le tireur comme étant un sergent de 39 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a été reçu aujourd'hui par le président sortant, Joe Biden, qui a promis une transition sans accroc. Pour Donald Trump, cette transition sera la plus fluide qui soit. Jacques Aristide.
Poignée de main entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump, le président sortant a accueilli vers les 11h locales le 45e et bientôt 47e président américain dans le bureau ovale où M. Trump prendra ses quartiers après sa prestation de serment le 20 janvier.
Monsieur le président élu et ancien président Donald, félicitations. Et je me réjouis d'avoir, comme nous l'avons dit, une transition fluide. Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûr que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Et nous allons en parler aujourd'hui. Bienvenue. Bienvenue.
Merci beaucoup. La politique, c'est dur. Et souvent, ce n'est pas un monde très agréable. Mais c'est un monde agréable aujourd'hui et je suis reconnaissant d'une transition qui est si fluide et sera la plus fluide qui soit. Et j'apprécie beaucoup cela, Joe.
Donald Trump, qui a signé un comeback extraordinaire en remportant la présidentielle du 5 novembre, s'est d'abord rendu ce mercredi devant des républicains. Le président élu continue également de former son administration parmi les dernières nominations. L'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy, qui a d'ores et déjà promis que le duo ne ferait pas dans la douceur.
John Thune a été élu ce mercredi chef des Républicains au Sénat américain, remplaçant le ténor Mitch McConnell en poste depuis 17 ans. Le sénateur issu d'une ligne républicaine plutôt traditionnelle a notamment battu Rick Scott, le candidat soutenu par la galaxie Trump et le milliardaire Elon Musk dans un vote à bulletin secret. Le nouveau ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis ce mercredi de ne pas lever le pied face au Hezbollah libanais, contre lequel l'armée israélienne est engagée au sol depuis plus d'un mois dans le sud du Liban. Et puis le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est arrivé aujourd'hui à Téhéran pour des discussions sur le programme nucléaire de l'Iran, selon la télévision d'État iranienne. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire lance un fonds de financement vert de 500 millions de dollars pour soutenir les initiatives de développement durable, selon le FMI. Ce fonds fait partie de l'initiative des banques vertes africaines qui vise à créer un écosystème de facilité d'investissement verte de 1,5 milliard de dollars dans toute l'Afrique d'ici à 2030. Le fonds sera soutenu par des sources publiques, dont le gouvernement ivoirien, le Fonds vert pour le climat, des banques et des investisseurs privés. La croissance du Niger devrait rester robuste à 7,9% et l'inflation devrait diminuer à 3,7% en 2025, note le FMI. Toutefois, des risques existent, notamment une détérioration de la situation sécuritaire et une hausse des coûts de financement, ainsi que des risques extérieurs comme la volatilité des prix des matières premières ou l'impact économique des tensions géopolitiques. Pour terminer, ici aux États-Unis, l'inflation a augmenté en octobre, atteignant 2,6% contre 2,4% en septembre, marquant ainsi sa première hausse depuis mars. Cette hausse est principalement due à celle des prix du logement qui explique à eux seuls plus de la moitié de l'augmentation sur un mois. Le taux de chômage reste faible à 4,1% malgré des créations d'emplois très faibles en octobre à cause d'ouragans et de grèves, notamment chez le constructeur aéronautique Boeing.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Ligue des champions féminines de la CAF pour commencer avec les rencontres de la deuxième journée.
Oui, après leur première sortie, soldée par une défaite, les championnes en titre sud-africaines, les Mamelodi Sundowns, se sont relancées en dominant les éthiopiennes de CBE 4-0. Hier, opération relance réussie aussi pour les autres sud-africains de University of Western Cape FC qui ont battu les aigles de la Médina du Sénégal 2-0. Les Sénégalaises enchaînent ainsi avec une deuxième défaite qui compromet sérieusement leurs chances de qualification pour les demi. Belle opération pour les Marocaines de Far de Rabat qui ont battu le tout-puissant Mazembe 3-1 et se rapprochent des demi-finales. Pour rappel, cette Ligue des champions féminines de la CAF a débuté le 9 novembre dernier et se poursuivra jusqu'au 23 novembre dans deux villes marocaines, El Jadida et Casablanca. Elles mettent aux prises 8 clubs de foot féminins.
Début ce mercredi, des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Déjà qualifié à l'issue de la 4e journée, le Cameroun s'est contenté d'un match nul 0 but partout face à la Namibie éliminée. Autre rencontre à suivre, celle entre le Tchad et la Sierra Leone. Le Mali, lui, affronte le Mozambique à Maputo ce vendredi. C'est un match à grand enjeu pour les Aigles qui, selon leur sélectionneur Tom Saint-Fiette, comptent arracher leur ticket de qualification pour Maroc 2025 avec une victoire contre le Mozambique.
Très bon hôtel ici au Maputo. Le service est bien, l'atmosphère dans le groupe est très bien. On est ici pour une étape dans notre route de qualification. On sait que Mozambique, ce n'est pas une équipe faible, c'est une équipe forte. Mais on veut qualifier et on peut qualifier avec une victoire ici ou un match nul 2-2, ça va être suffisant pour être qualifié. Le moral est très bien. Les joueurs, ils sont prêts, ils sont fiers d'être là, ils sont prêts. Et l'atmosphère est bien et il n'y a pas de blessure qu'on est prêt pour affronter une très bonne équipe comme Mozambique.
Tom Saint-Fiette, sélectionneur des Aigles du Mali au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Ici en NBA, retour perdant de Joel Embiid.
Le Camerounais des Sixers a joué son premier match de la saison après sa blessure au genou gauche, 6 matchs manqués. Et sa suspension à la suite d'une altercation avec un journaliste dans le vestiaire, 3 matchs manqués. Mais Joel Embiid n'a pu empêcher Philadelphie de perdre 111-99 contre New York. Son manque de compétition a été criant, comme en témoignent ses statistiques. 13 points, 5 passes décisives et 3 rebonds en 26 minutes de jeu. À Boston, sur leur parquet, les Celtics, champions en titre, ont été surpris par Atlanta, qui s'est imposé 117-116. Impeccable, Stephen Curry a gâché la fête pour le retour à San Antonio, mais sous le maillot de Dallas de son ex-coéquipier Klay Thompson. Steph Curry a inscrit 37 points pour contribuer à la victoire de Golden State, 120-117. Thompson a marqué 22 points.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La commission électorale tchadienne a rejeté la liste présentée pour les prochaines législatives par le secrétaire général du parti présidentiel, un allié proche du pouvoir en raison de diverses irrégularités. Selon le président de la commission électorale, la candidature de M. Mahamat Zenbada ne satisfait pas aux critères d'éligibilité. Et pour une analyse, Eric Manirakiza a joint N'Djamena, le sociologue Gondé Ladiba, professeur à l'université de N'Djamena.
Il ne faut pas oublier que au sein du MPS, il y a également des rivalités. Puisque Zenbada, en venant à la tête du mouvement, il a fait élire le président Déby sur la base d'une coalition qu'on appelle Tchad Uni. Et donc, après les élections présidentielles de mai dernier, il revient à la veille de législative pour dire qu'il n'est reconnu plus le Tchad Uni, et que le MPS ira seul là où il peut aller, et donc que chacun se débrouille pour se faire élire au niveau local. Et donc, cela a suscité beaucoup de réactions au sein du parti au pouvoir, et il y a eu des communiqués des individus qui menacent de quitter le pouvoir, le parti, pour aller dans notre parti, pour se faire investir aussi sous le nom, sous la bannière de faire de l'opposition. Donc ça aussi, ça a créé un malaise actuellement au sein du MPS, et c'est aussi un argument qui va être mobilité pour écarter M. Zenbada de la liste du MPS, histoire de pouvoir créer une certaine harmonie, une certaine unité au sein du parti, et donc permettre aux militants du parti de battre campagne d'une certaine cohésion, une certaine entente mutuelle. Je pense que c'est un peu ça l'argument que je pourrais avancer.
Est-ce que cette décision de la commission électorale marquait-elle un tournant dans la régulation des candidatures au Tchad?
C'est trop tôt pour le dire, je pense. C'est trop tôt pour le dire parce que déjà, je pense que c'est trop tôt gros, je pense, pour la commission d'accepter que Zenbada, qui a été condamné, soit déclaré candidat. Ce serait trop gros. Maintenant, il faut attendre pour les autres cas. Pour le problème du cas, ce n'est pas la candidature, absolument, parce que vous avez dit la présidentielle, il y a eu des candidats qui ont été rejetés pour des raisons parfois de farfelues. Et là, il y a eu un effet du sérieux, mais le problème, c'est le résultat. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des résultats qui vont tenir compte donc de la régularité donc, de vote et voir respecter la voix des électeurs? C'est là l'enjeu principal. C'est un début, mais il faut attendre ce que dirait la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel, ce que dira aussi plus tard les autres étapes donc, de ces élections.
Peut-on y voir une volonté de renforcer les conditions d'éligibilité, même pour les proches du pouvoir?
Oui, je pense. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une situation, une conjoncture très fluide au Tchad, où c'est difficile de préjuger, je pense, à la hâte, ce que pourrait préserver l'avenir. Parce que nous sommes, le Tchad, c'est un pays fuyant. Et donc, tout peut arriver, tout peut changer à tout moment. Donc, pour moi, je pense que le grand enjeu, c'est par rapport aux résultats des élections qui seront décisives. Et on saura si la voix, le suffrage universel exprimé par les électeurs seront respectés. Si on aura des résultats qui ne seront pas contestés. Si les résultats seront contestés, à ce moment-là, on peut dire qu'on a eu de très bonnes élections au Tchad. Pour moi, je pense que ça répond à un agenda interne au parti au pouvoir, où la position de Mahamat Zenbada ne semble pas plaire à tout le monde. Et ils savent un peu bousculer les habitudes des gens. Et il accuse trop sa trop-puissance dans le manœuvrage du parti, ce qui fait que même ses propres amis ne veulent pas le voir aller plus loin dans ses ambitions.
Gondé Ladiba, sociologue et professeur à l'université de N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les autorités suivent de vives critiques sur la gestion du double éboulement survenu il y a plus d'une semaine à la falaise de Deschamps dans la région de l'Ouest. L'opposition dénonce les lenteurs dans la mobilisation de la logistique pour les recherches dans les décombres. Des appels ont été lancés pour demander la démission du ministre de l'administration territoriale et du gouverneur de la région de l'Ouest. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julinta.
Le 5 novembre dernier, un flanc de colline s'est affaissé au niveau de la falaise de Tchan, barrant ainsi la route entre la région de l'Ouest et celle du littoral. Les autorités ont autorisé les travaux pour établir la circulation. C'est au cours des dits travaux qu'un second éboulement s'est produit. Jean-Robert Wafo, membre du Front pour le changement au Cameroun, un parti de l'opposition.
Il y a eu un premier éboulement aux alentours de 10 heures. Un état normal. On aurait dit bloquer les entrées et les sorties de cette falaise. Parce que par expérience, c'est-à-dire qu'on est bien formé, avec le relief qu'il y a un espoir du côté de cette falaise, parce qu'il devait forcément avoir un effet domino. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé des gens juste après le premier éboulement pour enlever, n'est-ce pas, la terre qui avait traversé la chaussée. C'est une expérience inacceptable et inadmissible.
Faute de logistique, les équipes des recherches ont attendu 8 jours avant de se frayer un chemin pour atteindre les bas-fonds où ont été propulsés des véhicules de transport, des engins et personnes présentes lors du second éboulement. Lieutenant Charles Calvin Atangna, commandant de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam dans la région de l'Ouest.
Nous avons demandé d'autres moyens. Nous venons d'avoir ces moyens avec l'appui des autorités. Il fallait un bulldozer qui va créer le passage pour les pelles excavatrices. Nous allons créer une voie de contournement pour y accéder là où les deux engins sont dans le sol. Également là-bas, nous pourrons trouver d'autres victimes.
Malgré l'accélération des recherches, l'espoir de trouver des survivants s'amenuise. Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest.
À notre avis, il n'y a plus possibilité de trouver des survivants. Le travail que les différentes équipes sont en train de faire est très technique. Ils ont d'abord commencé avec les engins. Et cela a failli provoquer un troisième éboulement.
Les autorités ont mobilisé les experts de l'Université du Tchang pour proposer des solutions suite au double éboulement enregistré sur la falaise de Tchang. Professeur Armand Kagou Ndokman, volcanologue expert en risque naturel.
Il faut qu'une équipe descende sur le terrain et propose soit dégager le matériau déposé pour libérer la route ou bien exploser toute la colline pour dégager tout l'environnement et continuer à suivre. Parce que ce qui est su par rapport à tout ce qui est passé, la route n'a aucun problème. Il n'y a aucune difficulté associée.
Selon le dernier bilan provisoire officiel, 12 personnes ont déjà été extraites des décombres depuis le 5 novembre. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La population qui pratique le commerce transfrontalier entre le Rwanda et la République démocratique du Congo s'indigne contre les mesures restrictives à la frontière des deux pays. Elle souhaite que ces mesures soient levées pour que leurs échanges redeviennent fructueux. De Kigali, le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Au point de passage dénommé Petite Barrière entre la ville congolaise de Goma et celle de Rubavu au Rwanda, les acteurs du commerce transfrontalier traversent de part et d'autre. Cependant, depuis 2 ans et 3 mois, le gouvernement de la RDC a décidé de fermer la frontière à 15h au lieu de 22h comme c'était auparavant. Ces restrictions ont eu un impact négatif sur les échanges entre les deux pays, comme l'expliquent les populations locales.
Lorsque l'heure de fermeture nous rattrape, on laisse là les marchandises et on rentre parce qu'il est impossible de poursuivre la vente. Et lorsqu'on y retourne le matin, on trouve que beaucoup de ces marchandises se sont détériorées et on ne vend que ce qui reste et on rentre.
Lorsqu'on utilisait le jeton, même celui qui transportait une faible quantité de marchandises pouvait gagner quelque chose. Mais maintenant, on peut ne pas avoir de l'argent pour se payer en laissez-passer ordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Les populations rwandaises et congolaises souhaitent la levée de toutes les restrictions pour permettre un commerce normal, comme c'était auparavant. Mon point de vue est que les gouvernements du Rwanda et du Congo puissent se rencontrer et parler de bonnes relations devant exister entre les deux pays et que la situation ici à la frontière revienne à la normale pour l'intérêt et l'amélioration du bien-être des habitants de part et d'autre de la frontière.
Notre souhait est que le Rwanda et le Congo trouvent un compromis pour rallonger l'heure de fermeture pour que les Congolais puissent venir s'approvisionner chez nous et nous chez eux.
Le commissaire en charge du marché commun de la communauté économique des États d'Afrique centrale, François Kanimba, considère que ces restrictions sont aggravées par la précarité quasi générale des échanges entre les pays d'Afrique centrale.
Le commerce intra-régional au niveau de la communauté des États de l'Afrique centrale, par rapport aux autres communautés économiques régionales sur le continent, est le plus faible. Ça ne représente que 3% du commerce total des pays de l'Afrique centrale, alors qu'au niveau de l'Afrique de l'Est, par exemple, nous sommes à peu près à 20%. Au niveau de tout le continent africain, on est à 17%. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a un retard considérable au niveau de la promotion des échanges intra-régionaux.
Avant l'aggravation des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, on estimait à environ 50 000 passages réguliers à la frontière rwando-congolaise de Goma-Rubavu, un flux limité aujourd'hui à seulement 15 000 passages par jour. Jean-Thomas Sénémane-Chimier pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
Avant son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump dévoile progressivement la composition de sa future équipe. Le milliardaire Elon Musk va diriger un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Un autre riche allié de Trump, Vivek Ramaswamy, devrait co-diriger ce nouveau département dont l'acronyme en anglais est DOGE. Comment analyser ces nominations du président élu? Yacouba Ouedraogo a joint dans le Maryland, ici aux États-Unis, Jean-François Zeznek, analyste politique.
Je pense que c'est vraiment très difficile, ce sera très difficile à faire et il est certain que beaucoup de gens essayent de simplifier les gouvernements généraux et tout ce qu'ils font, c'est en fait ajouter à la bureaucratie. Dans le cas de Elon Musk, quand même, il faut avouer que c'est un homme d'affaires de génie, en fait. Il a réussi à monter deux compagnies, en particulier SpaceX et Tesla, qui ont réussi vraiment très bien. Malgré que tout le monde en fait pensait qu'il ne réussirait pas. Donc il a peut-être une chance de réussir un peu plus que d'autres, mais ça va être très difficile, surtout avec les bons temps dont il parle. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il mette des milliers et des milliers de personnes à la porte.
On sent cette sorte de focalisation des conservateurs sur l'administration fédérale américaine.
La plupart des gens dans le pays sont d'accord là-dessus, même parmi les démocrates et les républicains, c'est qu'il y a beaucoup trop de réglementations qui ont été développées au fur et à mesure des années. Et on voit que le niveau du gouvernement, la quantité de bureaucrates dans le gouvernement ne fait qu'augmenter. Et bien que tout le monde dit qu'il faut diminuer le nombre d'employés du gouvernement fédéral, mais en fait, ça ne fait qu'augmenter. Donc, depuis des années, c'est pas neuf. Ça fait 50 ans que ça dure. Et je pense qu'effectivement, il va falloir diminuer ça. Et la plupart des gens sont d'accord pour pouvoir diminuer la réglementation en général.
Parlons des récentes nominations de Trump. Kristi Noem à la sécurité intérieure, Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale, Elise Stefanik, ambassadrice auprès de l'ONU, Marco Rubio à la diplomatie, entre autres. À quoi va ressembler, j'allais dire, la future administration ou la future politique de l'administration Trump quand on regarde ses récentes nominations?
Ben écoutez, je trouve ça très intéressant parce que la plupart des gens qu'il a nommés sont, except pour Marco Rubio, sont absolument inconnus du public en général et des gens qui sont spécialisés dans ces affaires-là. Donc ce que ça me dit à moi, c'est que Trump va vraiment centraliser toutes les décisions dans ses mains et va avoir des gens qui sont entièrement à sa botte, si vous voulez, pour prendre les décisions et diriger le gouvernement dans la façon dont il veut.
Jean-François Zeznek, analyste politique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.